Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous un peu exceptionnel de cette émission, de cette deuxième émission de Radio Foot International. En fait, vous l'avez compris, on se met entre les matchs de la CAN que vous pouvez suivre sur notre antenne. Alors évidemment, nous allons commencer par cette CAN en Égypte avec des aigles surpris par les Palancas Negras, les aigles de Carthage bien sûr. Et match nul donc pour la Tunisie et l'Angola, 1-1 dans ce premier match du groupe E à Suez en début de soirée. Un faux pas pour les Tunisiens sans doute, puisqu'ils ont de grandes ambitions et parce qu'aussi ils ont mené au score. Les éléphants ont eux gagné leur premier match, un seul but signé Jonathan Koudja. Victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud. Maroc et Côte d'Ivoire sont donc en tête de ce groupe D. Dans quelques instants, le baptême du feu pour les Morabitoun. Après une si longue attente, eh bien la Mauritanie jouera son premier match de phase finale de CAN, de Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera donc en Égypte, dans le sud de l'Égypte. Ce sera face au Mali dans une cinquantaine de minutes. Enfin, nous évoquerons un peu la Copa América avec le Brésil et l'Argentine au rendez-vous des quarts de finale. Et puis la Coupe du Monde, puisque ce sont les Américaines qui seront donc les adversaires de l'équipe de France. Les Américaines qui ont battu sur un petit score, on vous en parlera, l'Espagne cet après-midi. Et pour débattre avec vous de tous ces sujets, eh bien Nabil Djellit et Patrick Juillard sont là. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Notre duo du soir qui savent si bien Annie. Nos soirées dans Radio Foot International après les matchs. Radio Foot, c'est parti. Suez, où le groupe E entre aujourd'hui dans la compétition. Nous sommes entre les deux matchs dans cette ville qui se situe donc au bord de la mer Rouge et à l'embouchure du fameux canal. Eric Mamrut, l'un de nos envoyés spéciaux à Suez, est sur place. Bonjour Eric, bonsoir plutôt.
Bonsoir, oui, bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Eric, j'aurais voulu, avant qu'on commence à parler de football, décrivez-nous un peu cette ville portuaire.
Bah, on n'en a vu pas grand-chose, parce que déjà, nous, on est basé à 50 km de là, à Al-Sourtna, très exactement. Donc, on est venu, oui, un petit peu vers le stade. Donc, on a vu un peu le bord de mer. On voit le port de loin. On voit beaucoup de tankers, super tankers, passer, évidemment, dans le coin. Hein. Ils sortent du canal de Suez et ils prolongent là-bas, dans le golfe de Suez, pour aller vers la mer Rouge. Donc, on est quand même au bord de la mer, entre guillemets, ici, ce qui donne un petit vent assez frais, agréable. Là, la température est bonne, là, après une grosse chaleur cet après-midi. C'est une petite ville, évidemment, on n'est pas du tout dans la touffeur, dans la fourmilière du Caire, ici. Il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins d'effervescence. Et là où sont basées les équipes, c'est-à-dire là où nous sommes également, Al-Sourtna, c'est totalement isolé, c'est un peu perdu, presque, entre guillemets, en plein désert. Là, les équipes sont bien, sont au repos, sont pas du tout embêtées. Donc, c'est un coin vraiment agréable, je pense, pour jouer au football. En plus, le stade est plutôt bien. Il était en retard au niveau de la construction il y a quelques mois. La délégation tunisienne s'était un petit peu inquiétée, mais ils ont vite travaillé, les pharaons égyptiens, pour que tout soit en place. La pelouse est belle, les tribunes, 25 000 places environ sont là. Le stade est bien, donc vraiment, on est content d'être là.
Bon, alors vous êtes donc là pour l'instant au Suez Stadium, où on joue au foot hein, quand même dans cette ville de Suez. Il y a d'ailleurs trois clubs en résidence, d'après ce que j'ai compris, dans ce stade de Suez. Et Eric, vous venez d'assister donc au premier des deux matchs du jour dans ce groupe E. Les Aigles de Carthage, les Tunisiens, affrontaient les Palancas Negras d'Angola. Et le match vient de se terminer sur le score de 1-1. Un match équilibré, nous a-t-il semblé ?
Plus ou moins, disons qu'avec un peu plus d'efficacité, la Tunisie l'aurait emporté et ça aurait été totalement logique. Un match un petit peu bizarre d'ailleurs à l'arrivée, au coup de sifflet final, on a vu les Tunisiens rentrer de tête basse et les Angolais vraiment faire la fête presque. Ils sont restés longtemps sur la pelouse, contents de l'aubaine, d'arracher ce point, car en fait, pendant longtemps, on les a pas beaucoup vus. D'ailleurs, les Aigles de Carthage auraient pu tuer le match dès la deuxième minute. Naïm Slidi se présente devant le gardien, il tergiverse, et du coup, les défenseurs angolais reviennent et du coup ils empêchent l'attaquant de Dijon de marquer et de prendre déjà très rapidement un avantage qui aurait conforté les Tunisiens. Au lieu de ça, et ben bon, ils ont dû travailler un peu plus, les Tunisiens. Ils avaient la maîtrise du ballon, ils obtiennent un pénalty logique à la demi-heure de jeu, transformé par Youssef Msakni, le capitaine tunisien. On dit que ça va, tout va bien pour la Tunisie, qui sans se montrer génial comme maîtrise les débats. Les Angolais, eux, ne nous montrent pas grand-chose, en tout cas au niveau offensif. La deuxième période, on sent les Tunisiens sur deux, peut-être un petit peu trop reculés. On a l'impression qu'ils attendent les Angolais pour pouvoir partir en contre, mais ça ne marche pas vraiment. Ils commencent à perdre leur football. Et petit à petit, les Angolais sortent la tête de l'eau. Et la 73e minute, et ben c'est là où tout bascule. Un tir de Mateus. Le gardien Faroumé Mustapha, il est sur la trajectoire. Il se couche. On se dit, bah, c'est bon, il a le ballon. Bah, non, il le relâche. Et du coup, Djalma Campos qui passe par là, et ben, il se saisit de l'offrande. Et il met le ballon au fond des filets. Un partout, les Tunisiens sont très troublés, un petit peu KO. Bon, ils parviennent quand même à se montrer dangereux à deux autres occasions par Wabi Kazri qui tire à côté et par Msakni qui trouve le gardien angolais. C'est tout, pas un grand match. Un partout à l'arrivée, un bon point pour les Angolais, un mauvais pour les Tunisiens, on va dire.
Patrick Juillard, vous qui suivez de près toujours la Tunisie, vous trouvez que les Tunisiens, à l'image de ce que nous raconte Eric, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du terrain à la tête basse alors que les autres étaient plutôt contents du résultat, c'est un faux pas, peut-être pas encore un mauvais résultat, mais un faux pas pour la Tunisie.
Non, c'est un mauvais résultat. Quand on mène 1-0, effectivement, qu'on a une certaine emprise sur le match et qu'ensuite on perd son football et qu'on se fait rejoindre, c'est un mauvais résultat. Il faut pas y aller par quatre chemins. La Tunisie est dans une poule, certes à sa portée, mais où on verra ce soir le deuxième match. Mais c'est pas évident. C'est une vraie contre-performance de pas gagner ce match-là.
Nabil Djellit.
Bah, moi, je suis pas totalement d'accord avec Patrick, parce que je veux pas jouer ici le pronostiqueur ou celui qui avait tout vu avant. Je trouve que c'est une poule qui est homogène, qui est en trompe-l'œil. Je trouve qu'on sous-estime cette équipe angolaise. Alors certes, elle n'a pas en termes d'individualité autant d'arguments peut-être que le quatuor offensif tunisien, encore qu'il en ait que trois qui étaient alignés ce soir. Je trouve que certains joueurs tunisiens sont passés à côté de leur match, et moi je me méfie toujours des équipes qui réussissent leur préparation. Ça a été le cas de la Tunisie avec des matchs amicaux plutôt bons, même si le dernier face au Burundi était un peu plus compliqué. Je rappelle quand même que la Tunisie est allée s'imposer en Croatie. Il y a eu une maîtrise globale, on va dire, des Tunisiens sur trois quarts du match. Je trouvais que les Angolais, en revanche, là où ils ont moins impressionné, c'est que physiquement, ils ont fini d'une manière assez incroyable et ils ont pu enfin développer leur jeu. Et ils ont validé leur temps fort avec ce but.
Ouais. Eric Mamrut, Nabil Djellit parlait de poule homogène. Effectivement, dans ce groupe E, alors la Tunisie et l'Angola, on les a vus. Tout à l'heure, il y aura Mali et Mauritanie, un match que vous commenterez tout à l'heure. Donc, on va vous laisser d'ici peu pour nous présenter le match tout à l'heure.
Oui, juste pour ajouter par rapport à effectivement à ce que disait Nabil sur le physique des Angolais à la fin du match. Effectivement, on a senti que les Tunisiens commençaient à piocher. On a vu Naïm Slidi qui était virevoltant au début, courber les chines. Il a été remplacé par Anis Badri. Je pensais qu'il allait se mettre en pointe, mais non, il s'est mis sur le côté. Alors c'est bien de voir Kazri, Slidi, Msakni permuter un petit peu tout le temps. Ça trouble peut-être la défense adverse, mais à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi. Et eux-mêmes, d'ailleurs, je me demande s'ils le savent vraiment.
Est-ce qu'Alain Giresse sait ce qu'il a fait sur ce match-là? Parce que tactiquement, franchement, il y a des choix qui sont surprenants, mon cher Eric, non?
On n'a pas eu le temps d'aller le voir en conférence de presse. Là, il vient d'en sortir actuellement. C'était soit aller les voir, soit participer à l'émission. Voilà, donc on a fait le choix de rester avec vous.
On lui demandera.
Ouais. Il joue sans attaque. En fait, il joue sans réel attaquant de pointe, puisque Kazri, qui est plutôt un milieu offensif, joue en avançant à l'espagnol. il sait le faire, mais c'est pas un avant-centre de métier, donc c'est quelqu'un qui a tendance à dézoner, à aller chercher des ballons.
Ouais. Il a commencé la saison avec Saint-Etienne en pointe, et puis après,
oui, mais c'est pas une vraie
un
pointe.
Non, je suis d'accord.
Voilà,
suis d'accord.
Donc la seule vraie pointe qui est dans l'effectif, il y en a deux, plus précisément, c'est Khnissi de l'Espérance de Tunis et Chawat du CS Faxien, qui est un très jeune joueur. Khnissi, qui est pas un joueur très physique pour une pointe, donc. Gires fait plus le pari du jeu, du carré magique, un peu comme à l'époque de l'équipe de France. Mais moi, surtout, j'ai trouvé que la Tunisie s'est totalement relâchée après avoir marqué son premier but. Ouais. J'ai pas eu le sentiment qu'elle cherchait à tout prix à faire le break. Alors, effectivement, avant l'égalisation, il y a une situation un peu litigieuse où Msakni bute oui, sur un défenseur. Penalty, ouais. L'arbitre ne siffle pas. Ça a fait polémique, y compris dans les après-matchs et pendant le match entre les joueurs.
Mais rappelons-le, il n'y a pas de VAR dans cette phase.
Il n'y a pas de VAR, mais globalement, quand même, la Tunisie est plombée par sa défense. C'était quand même le point fort historique de la Tunisie, la défense et le gardien de but. Là, ce soir, la Tunisie est plombée par sa défense et il faut saluer. Alors, Nabil parle du physique des Angolais. Moi, j'apprécierais aussi le coaching du technicien serbe Vasiljevic, qui a fait rentrer à la mi-temps Geraldo, le joueur du Ahli du Caire. Enfin, je parle comme sur RFI, le national du Caire, qui a été vraiment un gros apport, qui a vraiment percuté, qui a fait beaucoup de mal à cette défense tunisienne. Et puis, le buteur, il faut quand même rappeler, Djalma Campos, c'est un joueur de 32 ans qui joue en Turquie, à l'Alanya Sport, qui était déjà là, je crois, à la CAN 2008 et à coup sûr à la CAN 2010 qu'ils organisaient eux-mêmes en Angola. Donc la Tunisie, quand même, se fait battre par des joueurs de trentenaires, quoi. Donc moi, je me remettrais sérieusement en question à leur place. C'est une vraie contre-performance. C'est une équipe qui a battu la Croatie en match de préparation.
Il y a des choix quand même. Moi, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Vous avez le latéral gauche de l'Espérance de Tunis qui est monstrueux sur la saison.
Ça, je l'ai dit avant le match.
Voilà, Ben Mohamed qui n'a pas été mis. Bedoui qui est plutôt un défenseur central qui se retrouve à jouer dans le couloir gauche. Il y a eu encore un ou deux autres choix surprenants. Et puis surtout, moi, je ne comprends pas pourquoi Anis Badri, qui est aujourd'hui le leader offensif de l'Espérance de Tunis,
avec Belaïli,
voilà, n'a pas été aligné par Alain Giresse. Et cette défense à 3, excusez-moi Annie, on n'en est pas là, mais ça me fait penser au choix qu'avait fait Alain Giresse avec le Sénégal et sa défense à 3.
En tout cas, Alain Giresse, on l'avait entendu à votre micro, Eric, avant le début du match, dire qu'ils avaient des ambitions et qu'ils en avaient un peu assez de terminer en quart de finale, les Tunisiens. Eh bien, on suivra ça avec attention. On vous retrouve en fin d'émission, Eric, pour nous présenter le match du soir que vous allez commenter avec Antoine Grenier.
Avec plaisir. Bon, on rappelle juste que la Tunisie n'a pas perdu quand même. Hein.
Non, évidemment.
Bon,
évidemment.
Bah, c'est un début de compétition.
Match
bon,
nul.
Ça peut s'améliorer. Hein,
on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous en direct. Et messieurs, donc, vu qu'il y a un deuxième match pour l'instant,
oui,
on en parlera tout à l'heure.
Le bilan de ce match-là évidemment sera fait aussi à la lumière du résultat du deuxième.
Évidemment.
Ah bah, si je suis le Mali, je fais tout pour gagner, là.
Eh oui.
Ah bah oui, parce qu'effectivement, il faut en profiter. Ils vont jouer. Mais contre des Mauritaniens, on en parlera tout à l'heure, qui comptent bien marquer les esprits pour leur rentrée dans une phase finale de compétition.
De l'espace pour Gradel, Kodjak est tout seul au centre, il va être servi, le contrôle, la petite frappe et l'ouverture du score pour la Côte d'Ivoire. Jonathan Kodjak, cette fois, il ne s'est pas manqué, parfaitement servi par Max Alain Gradel. Il avait le temps, il a ouvert son pied, la frappe n'était pas très puissante, mais elle a trompé Williams, le gardien sud-africain. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est fini. La victoire de la Côte d'Ivoire ici au stade Al-Salam face à l'Afrique du Sud, 1-0.
Nous allons prendre la direction du Caire car vous venez d'entendre quelques instants un résumé du match qui a opposé la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en fin d'après-midi avec Thomas de Saint-Léger, Christophe Jousset et Joseph Antoine Bell qui étaient aux commentaires. Alors les éléphants sont plutôt entrer dans la compétition, on va dire, assez tranquillement, hein, pour des pâchés d'herbe, avec une victoire en tout cas. C'était face au Bafana d'Afrique du Sud. Un but, vous l'avez entendu, de Jonathan Kodjia. L'essentiel, c'était pour la Côte d'Ivoire de faire un peu comme le Maroc. Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Racontez-nous Thomas, cette entrée dans la compétition de la Côte d'Ivoire, évidemment très attendue, et une Côte d'Ivoire où il y a plusieurs bons joueurs en attaque, et on a vu l'un d'eux, même Nicolas Pépé, plusieurs fois dangereux dans ce match.
Oui, c'est vrai, Nicolas Pépé, dangereux lorsqu'il avait du champ, lorsqu'il a pu percuter, servir ses partenaires. Il a été aussi dangereux sur des coups de pied arrêtés. Le premier, en première période, s'est écrasé sur l'arrêt de la transversale du gardien sud-africain. Le second a été détourné par Williams, donc le portier sud-africain. Mais globalement, on a envie de dire que collectivement, c'était une prestation offensive assez décevante des Ivoiriens, avec un Kodja qui libère les siens un peu après l'heure de jeu, un Kodja qui se libère peut-être lui-même sur ce but, puisqu'en première période, il avait eu une occasion énorme d'ouvrir le score, seul face au gardien, avec du temps vraiment pour armer sa frappe. Il pouvait tirer à droite, à gauche, il a tiré plein centre sur le gardien. Cette occasion, il aurait pu la regretter, Jonathan Kodja, et surtout, les éléphants auraient pu la regretter. Heureusement, il y a eu ce but qui est venu du côté gauche. D'abord, une bonne interception de Wolo Koulibaly, un nouveau en sélection nationale. Max-Alain Gradel pour le service et Kodja à la conclusion, à la finition, vous l'avez compris, pour l'unique but de cette rencontre.
Patrick Juillard, cette entrée de la Côte d'Ivoire, évidemment, on l'attendait. Hein, les Ivoiriens sont toujours très attendus. Alors là, c'était face à l'Afrique du Sud, qui, ces derniers temps, était un peu moins impressionnante. Qu'avez-vous, vous, pensé de la prestation de l'ensemble de ce match?
Je dirais que la Côte d'Ivoire a fait le job, a fait le boulot, sans briller, sans être extraordinaire. Comme l'a dit Thomas, il y a eu pas mal d'occasions ratées avant qu'ils puissent concrétiser, mais moi j'ai trouvé que comme tous les matchs à 16h30, ça manquait quand même d'intensité. C'était un petit peu on sentait lourd. Que c'était dur et lourd de se déplacer sur ce terrain. Après, l'Afrique du Sud, comme d'habitude, il y a de la qualité, il y a un bon jeu de passe, mais c'est une équipe très timorée. Et puis je comprends pas là aussi le choix de jouer en 4-3-3 alors que le sélectionneur a l'effectif pour jouer avec deux pointes, Motiba et Percy Tau. Il excentre Percy Tau, il se prive de sa qualité. Donc c'est un peu frustrant pour les gens qui aiment bien ces joueurs-là. La Côte d'Ivoire, effectivement, au moins les joueurs jouent dans leur position préférentielle avec un Pépé qui est sur un côté et qui peut rentrer comme il le fait à Lille, et Kodja qui sert de point de fixation, d'attaquant de puissance, qui le fait pas mal. Maintenant, il a un peu manqué de réalisme, mais il a eu le mérite de pas se décourager. Il a fini par marquer. Voilà.
Nabil Djellit.
Pour moi, les Ivoiriens ont fait le job. C'était un match piège à 16h30. On sait que c'est des matchs compliqués. On sait que les joueurs sont rapidement éprouvés. Moi, j'ai eu des échos de la sélection ivoirienne. Ils espéraient faire la différence en première mi-temps parce qu'ils savaient qu'ensuite, ça allait se compliquer. Finalement, ils l'ont fait plutôt en deuxième mi-temps. J'ai aimé l'abnégation. Je trouve que c'est un joueur qui est complet, qui est intéressant, de Kodja, même s'il a été maladroit sur les deux premières situations. Mais il a rien lâché. C'est un match piège parce qu'en face, c'est l'Afrique du Sud. C'est une équipe intermédiaire. C'est l'outsider. Et la Côte d'Ivoire, dans son match à distance avec le Maroc, mène au point, même si les deux équipes vont s'affronter. Parce que je pense quand même que la Namibie, on peut me l'expliquer comme on veut, c'est en dessous de l'Afrique du Sud.
Et, on confirme.
Et voilà, après, franchement, quand on regarde cette équipe ivoirienne, très sincèrement, de l'extérieur, quand on discute avec les observateurs et tout, alors je sais qu'il y a eu des générations plus talentueuses, mais il y a quand même de la qualité, on ne peut pas s'en cacher. Seri, Kessié, Pépé, Gradel.
Mais Nabil, il manque Bailly en défense centrale, et ça, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire.
Ouais, mais je suis d'accord, mais je trouvais qu'Ismaël Traoré, l'Angevin, franchement, c'est quelqu'un qui correspond à l'ADN du football africain. Il est dur sur l'homme, il est athlétique, il fait pas de bêtises comme en Ligue 1. Et à l'image un peu de l'Algérie, je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent, parce que l'Algérie peut vous laisser Brahimi et Ounas sur le banc. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on peut se permettre de laisser un joueur. Vous imaginez un joueur comme Wilfried Zaha, qui serait titulaire dans les trois quarts des sélections du monde. On peut les laisser aussi sur le banc du côté de cette équipe ivoirienne. J'ai certainement dû oublier un ou deux noms.
On peut ne pas prendre Fousseni Koulibaly au
milieu.
Voilà,
Maxwell Cornet également. Donc, ça témoigne quand même de la richesse individuelle, même si ça ne fait pas tout, de cette équipe ivoirienne.
Thomas de Saint-Léger, vous qui êtes au Caire et qui étiez au match, vous les avez rencontrés, certains de ces joueurs, à la fin du match. Est-ce que vous avez senti une certaine satisfaction, soulagement peut-être de la part des joueurs?
Oui, soulagement. Et ce qu'ils ont retenu surtout, c'est la solidarité de leur groupe. C'est revenu dans beaucoup de discours de ces joueurs ivoiriens. Et c'est vrai qu'on ne peut pas leur retirer. Nabil parlait d'abnégation. Moi, je rajoutais ce mot de cette solidarité. Il y a eu des retours défensifs intéressants en tout cas. Salvateur en première période de Gradel, en seconde de Pépé. Donc les attaquants se sont mis aussi au service de l'équipe quand il fallait défendre, et ça ils l'ont tous dit. Je pense que le symbole de ce match pour la Côte d'Ivoire, c'est justement Gradel, parce que il a été très précieux pour défendre sur le côté gauche lorsque le nouveau Koulibaly s'est retrouvé parfois en difficulté. Et puis c'est lui, on disait tout à l'heure, qui donne la passe décisive pour Kodja. Il a fini complètement rincé avec des crampes. Il est sorti d'ailleurs en fin de partie. C'est ce qui peut être intéressant pour la suite de la compétition pour les Ivoiriens, cette notion de groupe qui peut-être est en train de se construire, alors que jusque-là, on avait peut-être pas cette impression, en tout cas, on n'avait pas l'impression que cette équipe dégageait une force collective, une envie de se battre les uns pour les autres.
Après, un bémol, si je peux me permettre, Annie, c'est le coaching. Alors même si les joueurs qui sont rentrés devaient rentrer, mais quand vous jouez des matchs à 37 degrés à 16h30, comment vous faites pour attendre la 68e ou la 70e minute pour, du côté ivoirien, incorporer un premier renfort? Moi, ça m'a très sincèrement surpris, surtout dans ce genre de match où les organismes...
Pour soulager un peu les
organismes sont quand même très sollicités.
Mmh. Patrick?
Non, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Thomas au sujet de Gradel. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il était très impliqué, qu'il faisait beaucoup de replis défensifs, et ça correspond un peu à ce qu'il a déclaré cette semaine dans les conférences de presse et les interviews. C'est-à-dire que il joue sa cinquième CAN, hein, c'est pas rien quand même. Il a commencé en 2012, c'est sa cinquième CAN. Et il joue maintenant le rôle de grand frère auprès du groupe. Alors qu'au départ, lui, c'était le petit frère. C'était un joueur que les Drogba et Yaya Touré et autres couvaient, même Zokora à l'époque couvait. Et maintenant, c'est lui qui couve Nicolas Pépé. Il dit, c'est mon petit frère. Et donc, je pense que ce relais générationnel est intéressant pour le groupe, d'autant que physiquement, il a encore du gaz, Gradel, il n'est pas fini.
On l'avait entendu d'ailleurs, Didier Drogba, dans la première partie de Radio Foot International, oui, le message qu'il a posté...
Souhaiter bonne chance aux éléphants.
Ouais. Le message qu'il a lancé sur Twitter à tous les éléphants, en leur disant surtout, cette osmose, ce mariage entre expérience et jeunesse a besoin de se faire. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger d'avoir été en direct avec nous, et on vous laisse à votre nuit plus fraîche du côté du Caire.
Plus frais, je ne sais pas, et j'ai entendu dire qu'il allait faire très chaud à Paris aussi.
Mettez une serviette mouillée sur le ventilateur, Thomas.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger. Voilà Thomas qui est donc au Caire, où on a trois des groupes de cette compétition qui se retrouvent là-bas. Messieurs, juste avant qu'on conclue, on faisait dans la première partie de Radio Foot un peu le tour, non pas de match par match, mais un petit peu de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui vous a intéressé ou marqué dans les... Alors, il y avait eu 7 matchs, maintenant il y en a eu 9, dans les 9 premiers matchs depuis le coup d'envoi.
2-3 petites remarques. D'abord, moi, j'ai apprécié le jeu sans complexe des petites équipes. Je pense à l'Ouganda qui a été qui a enfoncé une RDC totalement amorphe, mais encore fallait-il... se donner les moyens de les battre, de croire en ses chances déjà. D'autres équipes auraient pu se contenter d'un 0-0.
Mais l'Ouganda, on l'avait déjà remarqué à la CAN en 2017.
Tout à fait, très solide. Et là, enfin, plus de jeu, une équipe un peu plus joueuse. Ensuite, je trouve que malheureusement, beaucoup d'équipes n'ont pas d'attaquant de pointe vraiment très au point. Ça manque un peu d'avant-centre, tout ça.
Pas d'attaquant de pointe au point, oui.
Je suis un peu déçu sur ce poste-là. Et enfin, je trouve que une bonne surprise, c'est pour l'instant la qualité de l'arbitrage, parce qu'on se plaint souvent de l'arbitrage en Afrique. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là.
Nabil.
L'arbitrage, effectivement, qui est le point noir en règle générale des compétitions africaines. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé récemment, mis à part peut-être le match Sénégal-Tanzanie où les Tanzaniens finissent par miracle à 11. Je trouve que l'arbitre tunisien n'a pas été à la hauteur et que l'intégrité physique des joueurs sénégalais a été menacée à plusieurs reprises par des tacles franchement très dangereux de la part des Tanzaniens. J'ai bien aimé l'état d'esprit global, parce que je vois très peu quand même de manifestations de mécontentement de la part des joueurs. Il y a une forme de fair play, je vois pas d'attroupement de joueurs autour des arbitres, pas de tension particulière non plus entre
certainement, les équipes. C'est pas ce qu'ils prennent en général, des bonnes décisions. Voilà.
Mm-hmm. Pas de tension particulière entre les équipes, donc ça c'est plutôt quelque chose qui a salué. J'ai aimé aussi le Sénégal. Je trouve que le Sénégal est pour l'instant l'équipe qui m'a le plus, moi, entre guillemets, impressionné.
Moi, ouais. Vous savez laquelle c'est, Nabil ?
Non.
C'est l'Algérie.
Ah, bon,
mais
moi,
vous pouvez pas le dire.
Non, mais je suis Aliou Cissé, vous êtes Jamel Belmadi. Je suis Jamel Belmadi, vous êtes Aliou Cissé. Moi, je peux pas dire que l'Algérie est favori.
Moi,
vous pouvez
je
le dire si vous voulez, mais pour moi, c'est le Sénégal.
On ressemble plus tous les deux à Jamel Belmadi qu'à Aliou Cissé, voilà. Nabil.
Hein. Donc, le Sénégal, franchement, c'est impressionnant. Ils ont tout pour, ils ont tous les arguments pour, sans Sadio Mané.
Voilà, comme c'est ce que j'allais rajouter.
Mais
sans
je reviens,
Mané
et c'est aussi pour ça que je déplorais la faiblesse du poste d'avant-centre. Le Sénégal, effectivement, a fait une prestation collective très aboutie, mais il a manqué le dernier étage de la fusée, c'est Mbaye Niang qui a quand même vendangé, tenté plus sur ce match, malheureusement.
C'était le premier match, oui. Allez, on leur donnera le bénéfice du doute. Et avant qu'on retrouve la CAN, eh bien on va faire quand même un petit tour ailleurs dans le football, parce qu'il y a des compétitions un peu partout, vous le savez, autour de la planète.
Et
notamment,
ni
donner des yeux surtout. Et on va eh bien s'attacher quelques instants à la Coupe du Monde qui se passe en France.
Rapide, balle de 1-0. Le contre-pied est parfait. États-Unis 1, Espagne 0.
Ah, bon pressing bien déclenché.
Attention à cette frappe. L'égalisation. L'égalisation surprise fantastique de cette joueuse Hermoso qui permet à l'Espagne de revenir dans le match. Les Américaines qui prennent l'avantage sur un deuxième penalty de la capitaine devant des supporters et des supportrices qui poussent un ouf de soulagement.
Les Américaines seront donc les adversaires de la France, des Françaises en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sera vendredi soir au Parc des Princes et ce sera en direct sur RFI. Les États-Unis ont battu l'Espagne en fin d'après-midi dans la chaleur du moment qui plane sur la France et notamment apparemment à Reims dans la ville des Sacres. 2-1. Mais le score ne dit pas tout de cette rencontre où les Américaines ont beaucoup souffert de la chaleur, mais surtout, eh bien, face à leurs adversaires espagnols un peu coriaces. Elles, les Américaines, ont inscrit 2 buts sur pénalty. Les autres, un peu un but cadeau aussi, hein, des Américaines ou de la gardienne, du moins, des Espagnols. Ce fut compliqué. Les Américaines y sont parvenues, mais quand même, alors elles souffraient de la chaleur, mais elles souffraient aussi d'une vraie adversité, Patrick.
Ouais, je pense qu'elles ont peut-être un peu pris de haut au départ cette équipe espagnole. Il y a eu peut-être un peu de suffisance de la part des Américaines. On dit qu'elles sont arrogantes et sûres d'elles, ça c'est...
Les Espagnols, oui, les critiquer là-dessus.
Voilà. Là, je pense que c'est au-delà de l'arrogance ou de l'assurance. Là, c'était un peu de la suffisance, je pense, dans la manière dont elles ont abordé le match. Et on l'a vu, il y a eu des erreurs inhabituelles. Il y a eu parfois un manque de rigueur qu'on ne voyait pas.
Ou de concentration. Mmh.
Maintenant, elles ont une marge telle que je ne vois pas tellement ce qui peut leur arriver. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle tout de suite du match contre la France.
Okay.
Mais sur ce match, voilà, je trouve qu'il y a eu un peu de suffisance. Et comme vous l'avez dit justement, la chaleur qui arrive sur la France, là, risque d'être très dure pour les organismes. Déjà parce que la compétition est commencée depuis 2 semaines. Les filles enchaînent les matchs, ça devient de plus en plus dur. Et en plus,
parce que
par cette chaleur à ces horaires-là, ça peut être terrible.
On se croirait en Égypte.
Pratiquement.
Nabil Djellit, les Espagnoles, elles en sont à leur deuxième Coupe du Monde. Mmh. C'est la première fois qu'elles allaient en 8e de finale. Mais finalement, il y a une vraie école. Il y a aussi des joueuses qui se sont illustrées et qui n'ont pas eu peur devant les Américaines.
Non, puis surtout, c'est un football qui a progressé en club. On a vu que le FC Barcelone est arrivé en finale.
Exactement.
Cette année de la Ligue des Champions, même s'ils ont été surclassés par Lyon. Donc,
par
effectivement, il y a de la qualité. Mais voilà, moi, je m'attendais, je suis quand même surpris de la résistance de cette équipe espagnole, parce qu'on nous explique depuis le début, alors je ne suis pas un spécialiste du football féminin.
Ça dépendait des adversaires jusqu'à présent.
Les États-Unis et les autres. Donc, cette équipe espagnole a quand même montré des belles choses. Elles sortent quand même la tête haute de cette compétition. Et en oui, plus, et puis... elles peuvent se sentir, alors même si effectivement bah, c'est trop tard et c'est fini, on ne peut pas revenir dessus, peuvent forcément se sentir un peu lésées du scénario et de la manière dont elles ont été battues par les Américaines qui ont, rappelons-le, bénéficié de deux pénalties.
Oui, et qui ont forcé voilà. à la
faute
aussi.
Je pense que l'Espagne a quand même beaucoup appris sur ce tournoi parce que je me rappelle de leur premier match que j'avais regardé, puis c'était contre l'Afrique du Sud. Et pendant une mi-temps, elles étaient menées. Elles avaient eu beaucoup de mal. Elles avaient un jeu très stérile, très latéral. Et je trouve que là, sur ce qu'on a vu sur ce, contre
face
les États-Unis, c'était quand même beaucoup plus. Ça ressemblait beaucoup plus à un football conquérant et efficace, quoi.
Il y avait une de leurs bonnes joueuses aussi, une habituée qui a dû sortir hein, oui. sur blessure, blessée par un coup de coude à un œil. Et c'est vrai que ça les a un peu touchées. Alors, les Bleus. Peut-être aussi Nabil, peut-être le fait d'avoir vu en tout cas une équipe comme les Espagnols, il y a
contre
les Franco
le Carême,
finalement,
ouais.
si on peut se permettre, si on peut se permettre, comme les Espagnols.
Corinne mais Franco,
en tout
vous
cas...
attention à la dictature du résultat.
En tout cas pour les Bleus, elles ont vu les Américaines être peut-être gênées.
Oui,
elles
oui.
ont vu en tout cas comment on pouvait les gêner. Alors elles ont dans le passé évidemment cet écueil américain américaine parce que ce sont le Mondial notamment où elles sont demi-finalistes en 2011 et où elles sont sorties par les Américaines, mais il y a aussi les JO en 2012, les JO en 2016. Au Havre, il y avait eu ce match, certes amical, mais où les Bleus avaient ouais. gagné 3-1. Mais il n'y avait pas les meilleurs Américains
non,
en face.
Non, mais bon, je pense que ce match-là, après, on verra ce qui se passera. Mais bon, les Françaises, elles sont quand même éprouvées. Elles sortent d'un marathon face au Brésil avec des prolongations. Mais ça a pu regonfler, à mon sens, plus le moral des supporters français que des Françaises elles-mêmes. Parce que, à mon avis, elles sont quand même conscientes du niveau d'adversité qu'elles vont croiser ce vendredi. Après, les supporters, eux, peut-être qu'ils se disent, finalement, ces Américaines, elles ne sont peut-être pas si intouchables que ça, et peut-être qu'avec l'appui du public, peut-être qu'avec un scénario favorable, peut-être qu'avec des faits de jeu, peut-être que les Françaises peuvent bousculer cette sélection américaine. Moi, très sincèrement, je le sens pas. Je le sens pas. Déjà, France-Brésil, je trouvais que c'était un match piège parce qu'on nous annonçait qu'on allait pas se balader contre les Brésiliennes.
Les
Bleus, on n'avait jamais perdu contre elles.
Voilà.
C'était ça.
Les Bleus s'en sont sortis.
Ouais.
Là, on a toujours perdu.
Mais là, je sais pas pourquoi les Américaines, elles ont la culture de la victoire. C'est des machines de guerre, excusez-moi l'expression.
Et elles sont venues là pour conserver leur
titre. Et puis
je
pense que face aux Françaises, elles vont élever leur niveau de jeu.
Nabil a raison totalement, c'est-à-dire que les États-Unis sont favoris hein, sur ce match. Ça fait aucun doute.
Et sur le tournoi.
Mais,
oui.
Oui, mais là, ce qui est assez frappant avec cette équipe de France féminine, c'est qu'elle gagne au forceps. Elle a fait un très bon début. Le premier match était plutôt prometteur et ensuite... ça a tendance à aller décrescendo et moi ça me rappelle beaucoup France 98, rappelons-nous, une victoire facile et convaincante alors que tout le monde avait taillé l'équipe de France Santé Plus avant le tournoi contre l'Afrique du Sud et ensuite il y avait eu un petit peu des flottements et les matchs à élimination directe
ont
que ce soit
difficile.
Contre le Paraguay ou l'Italie ont été très difficiles. Et pourquoi ne pas croire que
on peut
être plus laborieux que brillant et réussir. La France a souvent réussi en étant plus laborieuse que brillante. Et quand la France était brillante, souvent ça passait pas. C'était le cas dans les années 80, à l'époque de Platini. Donc et même en 2006 avec Zidane qui était resplendissant, mais la France perd contre
l'Italie. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que les Américains...
Il y a quelque chose qui rappelle l'histoire du foot français dans tout ça, je trouve.
On verra ça vendredi. On aura le temps d'en parler avec ces Bleus qui joueront donc les Américaines au Parc des Princes.
Dépasse où là ?
Le ballon de but. C'est sur le poteau, la récupération. Firmino pour le deuxième, la feinte de Roberto Firmino. Erreur de Galese. Le Brésil n'avait pas besoin de cela. 2-0, le premier but de Firmino dans cette Copa.
Willian. Le tir de Willian, il est magnifique. 5-0 pour la Seleção. Le Brésil se balade face au Pérou.
Le Brésil se balade et oui, il faudra compter avec la Seleção et aussi avec l'Albi Celeste pour la suite de la Copa América. Les deux fortes équipes sud-américaines se sont qualifiées grâce à leur victoire dans les troisièmes matchs. Alors on a eu un Brésil dans l'Arena des Corinthians qui a battu le Pérou par 5-0. Et messieurs, juste un petit mot sur cette sélection, parce qu'après on va devoir partir retourner à Suez. La sélection de Tite, on a l'impression quand même qu'il y a enfin une cohésion et que ça monte en puissance. Nabil,
je trouve que, oui, enfin, effectivement, si on reste sur le dernier match face au Pérou, on a le droit de penser qu'on, je crois pas qu'on ait retrouvé le grand Brésil, parce que je crois que ça sera jamais un grand Brésil, ce Brésil de titre, mais en tout cas, c'est une équipe avec un collectif qui est bien huilé. Il a fait quelques choix forts, avec notamment Everton aujourd'hui qui s'est imposé un peu comme un titulaire à la place peut-être de Richarlison. J'ai vu qu'il avait intégré, puisque la Vox Populi le souhaitait, aussi Gabriel Jesus dans cette équipe brésilienne. Bon, c'est solide, franchement, dans tous les compartiments.
Il y avait Firmino.
Dans tous les
avait...
compartiments, c'est solide. Après, vous avez des facilitateurs de jeu fantastiques que sont Coutinho ou Firmino. Bon, bah, c'est une équipe qui sera peut-être pas rayonnante, mais elle est armée pour aller au bout.
Alors l'Argentine, elle aussi a joué son troisième match. Il fallait gagner face au Qatar sous peine de ne pas disputer les quarts de finale. Et l'Argentine, on va dire soulagement face au Qatar, une victoire 2-0. Alors pareil, un scénario, le premier
avec
but.
Une énorme erreur.
Énorme erreur. Ensuite, est-ce qu'ils se sont rassurés ou est-ce qu'ils ont rassuré ces Argentins, Patrick ?
Je pense qu'ils sont surtout offert un sursis. Moi, je ne pense pas que ce match-là va vraiment bouleverser le niveau de cette Argentine qui est quand même très faible.
Elle a terminé deuxième de son groupe. Hein.
Alors certes, on a toujours tendance à dire, bon, Messi, il ne tire pas assez cette équipe, mais il y a beaucoup de postes et de joueurs qui ne sont pas au niveau, tout simplement, d'un niveau international quoi, dans cette équipe. Je ne comprends pas que dans un championnat aussi riche et dense que le championnat argentin, avec aussi toute la diaspora, tous les joueurs à l'étranger, on ne puisse pas arriver à faire une équipe qui joue mieux au football que ça.
À noter que Paulo Dybala et Messi ont joué ensemble, ça a duré 15 minutes,
miracle,
ça faisait deux ans que ce n'était pas arrivé.
C'est incroyable, hein, on en frissonne là.
Et donc, en tout cas, pour ce qui est des Argentins, on connaît déjà leur adversaire et ça sera le Venezuela. Et ils pourraient croiser le Brésil en demi-finale. Et l'on retourne sur les bords du canal de Suez pour retrouver Éric Mamrut et Antoine Grenier. Messieurs, vous allez nous parler donc de ce match qui va commencer dans quelques instants entre le Mali et la Mauritanie. La Mauritanie très attendue pour son baptême du feu.
Effectivement, c'est le grand jour pour cette nation, la Mauritanie. Et ces 4 millions d'habitants, sans doute, tous devant leur télévision ou à l'écoute de Radio France Internationale, bien sûr, pour vivre ce moment tout simplement historique pour le pays. Un premier match dans une Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie qui se retrouve là, alors qu'il y a quelques années, c'était encore l'un des cancres du football continental, classé au-delà de la 200e place au classement FIFA, 206e sur 211 exactement en 2012. Depuis, la Mauritanie a gagné une centaine de places. Bon, on va vous faire tout à l'heure un petit peu tout l'historique de ce qui s'est passé. Beaucoup de choses, évidemment. La professionnalisation du football mauritanien est passée par là, beaucoup de progrès. Donc les voilà, ici les Mourabitoun opposés au Mali pour ce duel 100% ouest africain, duel inédit évidemment ici dans le stade de Suez qui s'est un petit peu vidé, Antoine, par rapport au match de tout à l'heure.
Oui, il y avait beaucoup de supporters tunisiens qui bien évidemment ne sont pas restés, peut-être tout simplement que le cœur n'y était pas après ce match nul concédé face à l'Angola. En tout cas, les Mauritaniens, eux, sont présents. On les voit de l'autre côté de ce stade, dans la tribune qui nous fait face, avec un énorme, drapeau, qui a été visiblement cousu main, avec l'étoile et le croissant jaune sur un fond vert et des bandes rouges. Voilà le drapeau mauritanien très présent. Il prend facilement une centaine de places dans la tribune juste en face de nous dans ce stade de Suez. Les Mauritaniens sont là pour voir leur équipe nationale affronter une équipe du Mali beaucoup plus expérimentée. Bien évidemment, les Maliens en sont à leur 11e participation dans une Coupe d'Afrique et ils ont réussi de très bons éliminatoires, ces Maliens. Donc gros client pour la Mauritanie, même si le Mali reste sur la déception de sa dernière Coupe d'Afrique au Gabon, où les hommes d'Alain Giresse à l'époque n'avaient pas passé les tours dans leur groupe D à Port-Gentil. Le groupe n'était pas simple à l'époque. Il y avait l'Égypte, il y avait le Ghana, deux gros favoris à chaque fois des Coupes d'Afrique des Nations. Mais les Maliens ont à cœur, dans un groupe plutôt homogène, et bien de tirer leur épingle du jeu. Ça commence ce soir face à cette équipe de Mauritanie.
La Mauritanie, dont cette qualification historique a été acquise le 18 novembre dernier lors de la cinquième journée des éliminatoires. C'est une victoire décisive face au Botswana à Nouakchott. La Mauritanie qui a donc terminé deuxième du groupe I ex aequo avec l'Angola. Tiens, et devant le Burkina Faso, resté en rade. Donc ce n'est pas une mince performance pour la Mauritanie qui a battu les étalons burkinabés 2-0, qui a battu l'Angola 1-0, toujours à domicile, et qui avait battu l'Afrique du Soudan en 2017. Déjà, eh bien, on voyait pousser ses Mourabitounes. Résultat, les voilà donc qualifiés de manière logique, on va dire, grâce aussi au passage de 16 à 24 nations, si ça peut aider pour cette 33e édition. Voilà donc ces Mourabitounes qui s'apprêtent à disputer leur premier match dans cette CAN. Avec quel état d'esprit, avec quelles émotions, beaucoup sans doute traversent les joueurs. Écoutez ce que nous disait hier en conférence de presse le capitaine de cette sélection mauritanienne, Abdoulba.
Déjà, c'est une fierté et une chance déjà de faire partie de cette équipe qui emmène la Mauritanie pour la première fois à la CAN. Et on est partagé entre beaucoup d'envie, d'excitation, d'enthousiasme de débuter cette compétition. Parce qu'on a vu les autres matchs et on a juste envie d'être sur le terrain nous aussi pour débuter cette compétition. C'est notre première CAN, donc pas de retenue à avoir. Se lâcher tout en respectant les consignes. Et surtout ne pas se sous-estimer ou se surestimer, donc avoir la bonne température avec tout le stade, tout le contexte qui est autour, tout ce que la Mauritanie attend de nous, de vraiment se concentrer sur le terrain et faire ce que nous savons faire, c'est ce qu'on a démontré durant les phases de qualif.
On va voir effectivement comment les Mourabitounes vont aborder ce match libéré, effectivement, comme l'espère Abdoulba, ou peut-être contracté évidemment par cet enjeu, cette première. Ils ne connaissent pas effectivement la saveur d'un match à ce niveau. En face, Antoine, des Maliens, certes, qui ont plus l'habitude de ce genre de compétition, quoique en même temps, c'est une équipe, sont pas des aiglonnais, mais presque.
Oui, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas Mohamed Magasouba, le sélectionneur qui avait succédé à Alain Giresse et qui était parti à la base pour un intérim, et puis l'intérim s'est prolongé. Bref, il fait confiance à pas mal de jeunes joueurs, au premier rang desquels Diadié Samasekou, qui était remplaçant en 2017 dans cette sélection. Il sera titulaire ce soir, le milieu de terrain du Red Bull Salzbourg, pour sa 9e sélection. C'est un tout jeune joueur, il est pétri de talent et il va falloir qu'il montre maintenant au niveau international que les bonnes saisons qu'il effectue en Autriche, eh ben, il arrive à les effectuer également avec les aigles. Mais la question pour le Mali, c'est dans quel état d'esprit vont-ils aborder cette Coupe d'Afrique à laquelle ils ont failli ne pas participer. Alors sportivement, aucun problème, ils s'étaient qualifiés dans un groupe avec le Gabon, le Sud-Soudan et le Burundi sans concéder la moindre défaite, en allant s'imposer au Gabon sur un but de Doumbia. Bref, des éliminatoires parfaits ou quasi parfaits. Et puis il y a eu cette crise de la FEMAFOOT qui a rattrapé tout le monde. Cette assemblée générale de la dernière chance juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, la FIFA avait pressé les différents acteurs du football malien à trouver enfin un accord pour que le pays qui est privé de championnat et de fédération depuis maintenant 2 ans, eh bien, trouve enfin une solution. Ça s'est joué à rien. Les aigles étaient sous la menace d'une suspension si jamais les discussions entre les acteurs du foot malien n'aboutissaient pas. Finalement, les Maliens sont là. Ils vont pouvoir défendre les couleurs du Mali, un pays qui en a particulièrement besoin d'un peu de bonheur via ses footballeurs. Et ce soir, face à la Mauritanie, ces tout jeunes Maliens auront une sacrée responsabilité et une sacrée pression.
Alors que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse, beaucoup d'émotions donc, on l'imagine, pour les Mourabitounes, notamment les El Hassen Delali Adamaba, Ismaël Diakité, Souleymane Diallo, le gardien emblématique de cette sélection, tous de vert vêtus. Les Maliens sont avec leur tenue jaune, donc ils vont rentrer sur la pelouse. Annie, vous nous guidez, si on a encore un petit peu le temps, peut-être le temps d'écouter les hymnes, d'écouter Mohamed Magasouba, le sélectionneur malien, dites-nous.
Eh ben, je vais surtout refermer Radio Foot International, voilà. Cette édition nocturne, entre les matchs de la soirée. Et j'en profite pour vous rappeler bien les résultats des deux matchs précédents, à savoir la Côte d'Ivoire qui a battu l'Afrique du Sud. C'était du côté du Caire, et puis à Suez, juste avant ce deuxième match, la Tunisie qui a battu, qui a fait match nul avec l'Angola sur le score de 1-1. Merci beaucoup,
merci
messieurs.
Merci à tous.
Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer la mission, et à Laurent Salerno. Et il y a Tom Rossi qui est avec vous, Eric Mamrut et Antoine Grenier. Et on vous laisse évidemment pour ce match. Merci beaucoup à tous.
La Coupe d'Afrique des Nations Total, Égypte 2019.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à Annie qui me donne le relais pour ce match Mali-Mauritanie. Je donne tout de suite la parole à Eric Mamrut, Antoine Grenier, en direct de Suez. Je crois que les hymnes viennent tout de suite d'être entonnés.
Tout à fait, Tom. Ça commence par l'hymne des aigles du Mali. Derrière nous, toute la tribune de presse s'est levée. Il faut dire qu'il y a énormément de journalistes maliens présents à cette Coupe d'Afrique des Nations, ici à Suez. Et vous allez, on va vous laisser vivre un petit peu ce premier hymne mauritanien de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Eric.
Eh oui, c'est historique. On l'écoute. Les joueurs mauritaniens, la main sur le cœur, tous en train d'écouter cette hymne. Certains le chantent également. Les visages sont fermés, sont graves. Hein. C'est étonnant de voir leur regard vraiment avec plein d'intensité. On sent l'émotion hein, dans l'esprit de ces mourabitounes là qui sentent véritablement que bah, ça y est, c'est le moment. Ça y est, ils en ont tellement rêvé de cette première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, eux qui eh bien, sont des joueurs mineurs entre guillemets quand même du football international africain également. Il y en a beaucoup qui ont grandi au niveau footballistique en Mauritanie, donc ont réussi à s'expatrier, et là eh bien, les voilà eh bien, les grandes portes du football continental s'ouvrent à eux. C'est le moment d'en profiter, évidemment, puisque bon, il ne s'agit pas seulement de participer, comme disait Pierre de Coubertin, mais bon, si on peut gagner aussi, c'est mieux.
Et en tout cas, l'histoire retiendra que c'est en 2019 que la Mauritanie a fait ses premiers pas en Coupe d'Afrique des Nations et qu'elle l'aura fait sur RFI.
Merci beaucoup Antoine Grenier, Eric Mamrut. On fait une petite pause d'une minute. Vous ne manquerez rien des premiers pas des Mourabitounes.